Bonjour Ludo.
Bonjour Patrice, salut à tous.
Alors cette question, première question, les campagnes françaises changent-elles de visage sous l'effet de la conjoncture mondiale?
Mais oui, vous avez peut-être remarqué ça au printemps, le phénomène est particulièrement visible. Le jaune vif du colza avait dominé de nombreux paysages agricoles et selon les chiffres publiés par le ministère de l'Agriculture, les surfaces de colza ont bien progressé en fait de 9% en 2026. Et dans le même temps, en fait, vous avez pu voir les producteurs qui eux annoncent une baisse importante des semis de maïs grains notamment, tandis que le tournesol, lui, continue de gagner du terrain. Alors en fait, derrière ces évolutions se cache une réalité assez simple. L'agriculture est devenue en fait extrêmement sensible aux crises internationales, aux marchés mondiaux et aux prix d'énergie. Alors aujourd'hui, le choix d'assolement ne se fait plus uniquement en fonction du sol ou du climat par exemple, mais il dépend aussi des tensions donc géopolitiques, des marchés financiers, des politiques énergétiques et des débouchés industriels.
Pourquoi les tensions internationales influencent-elles autant les choix agricoles?
Alors c'est assez simple. En fait, l'agriculture moderne en fait reste très dépendante des énergies fossiles. Le pétrole fait fonctionner les tracteurs, les moissonneuses et les systèmes de transport. Le gaz, lui, sert notamment à fabriquer les engrais azotés, indispensables donc aux grandes cultures intensives dans beaucoup de systèmes. Lorsque les tensions en fait montent au Proche-Orient ou ailleurs d'ailleurs, les marchés pétroliers réagissent immédiatement. Pour les agriculteurs, en fait, ça change tout. Certaines cultures deviennent brutalement plus coûteuses à produire. Le maïs, lui, par exemple, que vous connaissez bien, nécessite souvent plus d'azote et d'irrigation, contrairement au tournesol qui, lui, paraît plus sobre et donc moins risqué économiquement dans un contexte d'inflation des charges.
Et alors, le retour du colza et du tournesol est-il uniquement lié au coût des intrants?
Alors oui, intrants, c'est-à-dire ce qu'on achète de l'extérieur pour mettre sur les cultures. Alors, en fait, il y a une forte logique de marché aussi. Les huiles végétales bénéficient aujourd'hui de nouveaux débouchés grâce aux biocarburants. Donc, en fait, le colza et le tournesol ne servent plus seulement à l'alimentation humaine ou animale, ils alimentent également le secteur énergétique. Le pétrole devenant cher de l'autre côté, le bioéthanol trouve donc de l'intérêt et cette demande soutient les prix. Les producteurs recherchent donc des cultures capables d'assurer une meilleure marge et dans un contexte économique incertain, l'essor des biocarburants modifie donc progressivement les équilibres agricoles. Et donc certaines cultures deviennent stratégiques car elles se situent donc à la frontière entre alimentation et énergie.
Alors pourquoi les céréales, Ludo, semblent-elles aujourd'hui moins attractives?
Alors oui, alors c'est aujourd'hui, bon ça évolue très très vite, mais les marchés mondiaux pour la céréale aujourd'hui restent quand même assez fournis. On parle de stock. Les récoltes en tout cas importantes observées en Europe, en Russie ou en Ukraine, ça pèse fortement sur le cours du blé et du maïs. Alors malgré les crises internationales, les prix restent relativement bas en fait. Les récoltes à venir par contre s'annoncent moins bonnes, notamment aux USA, donc ça c'est un contexte mondial, avec des stocks qui diminuent donc plus vite. Les prix pourraient donc remonter, en tout cas on l'espère, et le problème est que les charges, elles, demeurent élevées. Donc beaucoup de producteurs ont aujourd'hui le sentiment de travailler avec des marges extrêmement réduites, notamment pour celles des céréales, du blé en tous les cas, et l'assolement devient là aussi donc un véritable outil de gestion économique.
L'agriculture française, du coup, est-elle devenue dépendante du pétrole?
D'une certaine manière, oui, puis elle l'était déjà, on peut le dire, mais depuis des décennies, le mode agricole européen, en fait, s'est construit carrément autour d'une énergie abondante, relativement bon marché finalement. Donc toute l'organisation des exploitations en dépend. Mécanisation importante, engrais azotés, irrigation, séchage des récoltes et bien sûr le fameux transport de marchandises, notamment avec les camions. Et quand le prix d'énergie flambe, tout le modèle est fragilisé. Donc cette dépendance explique pourquoi les agriculteurs cherchent aujourd'hui davantage de sobriété, d'autonomie protéique aussi, vous en entendez peut-être parler, mais aussi énergétique.
Quel lien existe-t-il entre ces évolutions et la baisse de l'élevage?
Alors le lien est pourtant assez fort, je dirais le lien est très fort. Pendant longtemps en fait, les systèmes d'élevage structuraient les rotations agricoles, donc ça c'est les différentes cultures qui succèdent sur la même parcelle et les prairies, les maïs fourrages ou même certaines céréales étaient donc directement liées à l'alimentation animale. Avec la diminution progressive des cheptels bovins, enfin les vaches et puis les moutons, ces équilibres changent profondément. Moins d'animaux, ça signifie quoi? Ça signifie moins de besoins en fourrage. Et les agriculteurs remplacent alors parfois ces surfaces par des cultures de vente, comme le colza, le tournesol que vous voyez donc au printemps. Et même certaines céréales destinées à l'exportation.
Alors, la question, Ludo, le recul de l'élevage modifie-t-il les paysages agricoles?
Oui, le fameux paysage du bocage. Alors, je dirais.
Que l'on aime beaucoup.
Qu'on aime beaucoup et qu'on défend. Mais oui, c'est vrai que ça se modifie, très clairement. Et pas que chez nous, dans plusieurs régions françaises, les prairies permanentes reculent progressivement. Alors, ces surfaces, on le rappelle, les prairies jouent un rôle essentiel. Elles stockent le carbone, elles permettent de maintenir la biodiversité, elles protègent les sols, elles régulent la gestion de l'eau, l'infiltration de l'eau, elles participent à l'autonomie alimentaire des élevages. Et historiquement, tourné vers des productions bovines et caprines, en fait, chez nous, en Deux-Sèvres, on voit évoluer ces systèmes agricoles sous l'effet de la baisse du nombre d'éleveurs. Donc les surfaces toujours en herbe diminuent progressivement au profit des cultures de vente. En Deux-Sèvres, on a perdu 11% des surfaces de prairies depuis les années 2000, selon l'Agence régionale de biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Et cette évolution accompagne la transformation des exploitations, moins d'animaux, davantage de grandes cultures et plus de dépendance aux marchés mondiaux. Le paradoxe est d'ailleurs frappant, alors que les prairies constituent un de nos meilleurs outils agronomiques et environnementaux pour l'agriculture française, je dirais même, leur maintien dépend largement de la présence de l'élevage. Autrement dit, chez nous, quand vous voyez dans les terres cultivables, hein, qui sont plutôt à beau potentiel, derrière chaque prairie qui disparaît, il y a donc souvent un élevage qui s'arrête. Et une dépendance donc qui s'installe, notamment pour les marchés mondiaux. Donc je dirais qu'une chose, Patrice, je dirais vive les vaches, vive les moutons et vive les éleveurs.
Vive les meux et les baies. Merci beaucoup, Ludo.
Et bonne journée à tous. Ciao.
Bonne journée.